Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 2, les actes réflexes et les actes perceptifs. L'intelligence, d'une manière générale, s'est présentée comme une sorte d'invention personnelle, comme une adaptation nouvelle de la conduite à des circonstances particulièrement complexes. Une femme nous a paru sans intelligence quand elle n'était pas capable de combiner deux actions anciennes en une seule. Une telle intelligence peut présenter bien des degrés. Elle peut s'exercer sur des actes qui sont eux-mêmes déjà des combinaisons intellectuelles. Il y a, pour ainsi dire, des intelligences du deuxième et du troisième degré. Ces formes supérieures de l'intelligence dépendent avant tout du langage, car les nouvelles combinaisons ne peuvent guère se faire qu'entre des actes précédents résumés et présentés sous forme de langage. Mais on doit considérer d'abord une intelligence élémentaire, celle qui effectue des combinaisons entre des actes simples, qui ne sont encore que des mouvements des membres déjà donnés dans la constitution de l'organisme et dans celle des instincts. Ce sont ces actes primitifs, antérieurs à l'intelligence élémentaire, qu'il faut d'abord résumer pour pouvoir comprendre ce que l'intelligence élémentaire leur ajoute. 1. La hiérarchie psychologique. La conduite des êtres vivants se perfectionne de plus en plus et nous paraît acquérir une efficacité de plus en plus grande dans l'espace et dans le temps. C'est ce qui frappe nos regards quand nous voyons les différences qui distinguent les êtres les uns des autres. Ce progrès est très lent et, au premier abord, il y a peu de différence d'un animal à un autre. Il s'agit d'une série continue. Nous sommes forcés, pour la précision de la description, de distinguer des paliers où l'évolution est plus apparente. La science applique ici à la description des conduites un procédé de l'intelligence élémentaire que nous aurons à étudier à propos de l'échelle, de l'escalier. Dans l'escalier, nous établissons des marches dont l'écartement est proportionnel à la puissance de nos jambes. Dans les classifications évolutives, nous établissons des divisions souvent un peu arbitraires et correspondantes à notre capacité de distinguer les actes les uns des autres. Cette étude a permis d'établir un tableau hiérarchique des tendances, tableau évidemment très résumé, mais qui permet de voir quels sont les actes au-dessous de l'intelligence élémentaire et les actes qui se sont développés au-dessus. La liste ci-dessous présente en haut les tendances à des actions très élémentaires qui existent même chez les animaux inférieurs et en descendant les tendances à des actes de plus en plus élevés. Tendance à des actes réflexes, tendance à des actes perceptifs ou suspensifs, tendance à des actes sociaux, tendance à des actes intellectuels élémentaires, tendance à des actes du plan verbal, actes assertifs, tendance à des actes réfléchis, tendance à des actes rationnels, tendance à des actes expérimentaux, tendance à des actes progressifs. Parmi les actes les plus élevés de l'intelligence élémentaire, nous trouvons au premier plan le langage. Sans doute le langage tel qu'il existe aujourd'hui est bien différent des actes de l'intelligence élémentaire et des premiers objets intellectuels, de la route ou du panier. Il n'est plus comme eux un acte particulier et relativement simple, adapté à des circonstances bien déterminées. Il intervient partout à tout propos, il remplace toutes les autres actions. Il s'agit là d'un rôle spécial du langage, qui caractérise une conduite supérieure, souvent désignée aujourd'hui sous le nom de conduite du plan verbal. Cette utilisation du langage, qui transforme toutes les actions précédentes, n'appartient pas en effet à ce que nous appelons l'intelligence élémentaire. Mais avant de faire du langage cet usage spécial, avant de s'en servir comme substitut de toutes les actions, il a fallu d'abord le créer, l'organiser d'une manière moins ambitieuse. On peut remarquer qu'aujourd'hui, un autre objet intellectuel, l'outil, a pris également un développement énorme et qu'il intervient dans presque toutes les actions. Mais on peut observer une époque, chez l'animal et chez l'homme, où l'outil n'avait pas pris cette extension démesurée. Le langage a commencé de même par des commandements isolés, faits par quelques individus seulement et compris seulement par quelques autres. Les quelques formules verbales qui avaient été inventées étaient utilisées isolément de temps en temps dans quelques circonstances, comme les outils ou les paniers. Ce n'est que plus tard que l'homme, parvenu au plan verbal avec la croyance, a donné au langage le rôle que nous lui voyons aujourd'hui. Il s'est donc présenté au début comme l'une de ces opérations intellectuelles que nous étudions. Nous aurons donc, à la fin de ces études, à présenter quelques réflexions sur ces premières formes du langage et sur les actions qui en dérivent immédiatement, comme le commandement, le récit et les premières numérations. Mais il faut d'abord acquérir quelques notions sur les actions inférieures au-dessous de l'intelligence élémentaire qui ont été le point de départ de celle-ci. Quel est le phénomène apparent chez les êtres vivants que nous devons considérer comme le début des phénomènes psychologiques? Les philosophes, le plus souvent, éludent la question en mettant au point de départ l'intelligence et la pensée, conçues d'ailleurs d'une manière fort vague. Nous ne pouvons pas le faire puisque nous essayons de nous représenter l'intelligence et la pensée comme des formes d'action humaine déterminées apparaissant plus tard, à un stade déjà élevé, du développement psychologique. Une hypothèse très intéressante a eu jusqu'à nos jours une grosse influence sur les études psychologiques. C'est l'hypothèse de Condillac qui fait commencer toute l'activité de l'esprit avec le phénomène que l'on a désigné sous le nom de sensation. On appelle sensation la couleur bleue de ce papier, telle qu'elle est dans notre conscience, et non dans le monde extérieur. C'est un élément conscient, abstrait, de la perception du papier. C'est ce qui reste dans la conscience de cette perception quand on retire l'extériorité, la forme de l'objet, le schéma de cet objet et tous les actes qui dépendent de ce schéma perceptif. Toute la psychologie est fondée sur cette sensation et quand on a voulu appliquer les méthodes scientifiques à la psychologie, c'est cet élément abstrait de la perception, cette sensation que l'on a voulu mesurer, dont on a cherché les relations avec les phénomènes physiques extérieurs. Cette hypothèse condillacienne est-elle bien satisfaisante et ne nous a-t-elle pas entraînés depuis 2 siècles dans une mauvaise voie? Ce prétendu élément est encore, au point de vue psychologique, bien complexe. Il est surtout caractérisé par la conscience interne et personnelle. La statue de Condillac se sent odeur de rose. Ce caractère d'intériorité suppose la distinction de l'extérieur et de l'intérieur, qui ne peut se comprendre que par l'analyse des conduites perceptives et des conduites du sentiment, qui sont déjà des phénomènes psychologiques bien complexes. La vie interne a été présentée comme la première, comme la plus fondamentale, à la suite de considérations philosophiques. Elle n'a existé en fait que très tardivement. En fait, on ne peut pas constater de telles sensations isolément. Il est impossible de démontrer que l'enfant commence par avoir le goût du lait isolément quand il tète, puisque nous le voyons faire en même temps une foule de mouvements. ce n'est que tardivement, chez des adultes, que nous pouvons avoir affaire à des sujets qui nous disent « je vois du bleu et je ne vois que cela ». Ce sont des sujets intelligents et dressés qui, dans une perception totale et complexe d'un papier et d'un appareil, ont appris à isoler un élément désigné par un mot et à porter sur lui leur attention à peu près exclusive. On n'étudie pas ainsi, comme on le croit, un phénomène simple et primitif, mais un état d'esprit fort compliqué. Un grand nombre des difficultés de la psychologie expérimentale dépendent de ce malentendu sur le choix du phénomène considéré comme élémentaire. La philosophie même a toujours été très embarrassée pour rattacher les actes de l'homme qui ont les phénomènes psychologiques essentiels à cet élément considéré comme purement interne. Descartes, à qui l'on attribue la considération de la pensée comme point de départ de la vie de l'esprit, ne parlait du cogito qu'au point de vue philosophique. Il a été aussi l'un des premiers à étudier un autre phénomène comme primordial, quand il décrivait dans un schéma célèbre un homme assis auprès d'un feu qui retire sa main quand elle est brûlée. Ce mouvement élémentaire, si bien étudié par Descartes et par Malebranche, est devenu l'acte réflexe, et toute une psychologie a été édifiée qui prend cet acte réflexe comme point de départ. Griesinger commençait déjà à dire que tous les mouvements de l'homme n'étaient que des complications de l'acte réflexe. Depuis cette époque, un grand nombre d'écrivains ont développé cette idée. On peut rappeler, entre autres, les noms de Laycock, 1844, de Carpenter, de Horwitz, de Bonatelli, de Herzen, de Charles Richer et surtout de Berchtesgaden. Ce dernier a soutenu formellement que tous les phénomènes psychologiques pouvaient être présentés comme des complications de ces réflexes primitifs. Sans doute, cette conception soulève bien des difficultés et il sera nécessaire d'ajouter aux réflexes bien des éléments en grande partie nouveaux, bien des inventions, si l'on veut, d'actes nouveaux, qui ne sont pas uniquement des combinaisons de réflexes, mais qui ajoutent d'autres éléments. Mais l'idée générale reste juste. Pour nous, qui considérons la psychologie scientifique bien distincte d'une psychologie philosophique ou métaphysique, comme une étude des conduites des êtres vivants, cette conception des actes réflexes comme les plus simples que nous connaissions, au point de départ des autres conduites psychologiques, nous semble aujourd'hui la plus juste et la plus féconde, au moins comme hypothèse de travail.